Et puis il y a une autre dimension encore, c'est, vous parliez tout à l'heure de la problématique des OGM, le journaliste peut recueillir des avis dissonants au sein de la communauté et nourrir des controverses, où d'ailleurs la science parfois n'est pas capable de répondre aux questions qu'on lui pose. Donc ça, ça donne des feuilletons, entre guillemets, qui sont des feuilletons tout à fait passionnants et qui, là pour le coup, trouvent de l'audience. Mais encore faut-il que les médias conservent effectivement leur capital journalistique de savoir sur des sujets qui sont, sur des sujets qui sont donnés.
Et tout à fait, sur les OGM, c'est-à-dire que la meilleure synthèse qui a été faite à ma connaissance pour le moment, et commence à dater un peu, c'est le livre d'Hervé Kempf, de la guerre secrète des OGM. Donc effectivement, il y a du vrai travail de ce point de vue-là qui est fait. Le malheur, c'est qu'effectivement, et là je pense que ça ouvre à un autre aspect de ce qu'on doit discuter, c'est que dans une affaire comme celle des OGM, il y a des intérêts, des capitaux énormes qui sont en jeu. Hein, maintenant, c'est clair, et du coup, il y a un lobbying très très fort. Les scientifiques eux-mêmes sont bien sûr soumis à la pression de ces capitaux, parce que quand même, il est clair que si jamais les biotechnologies ont des vrais problèmes dans un pays, eh bien les boîtes de biotechnologies vont arrêter de donner des bourses de thèse. Ça se traduira pas seulement par un peu moins d'argent dans les labos, ça se traduit par moins de chercheurs dans les laboratoires. Hein. Et le résultat, c'est qu'on voit bien que les gens qui sont en faveur des OGM, bah, c'est les laboratoires de biologie moléculaire, alors que ceux qui sont plutôt opposés, c'est les laboratoires d'écologie. De même d'ailleurs que pour le climat, ceux qui pensent qu'il y a des vrais problèmes avec l'activité humaine sur les climats, bah, c'est les climatologues et les écologistes. Et puis ceux qui pensent que tout compte fait tout ça, c'est pas tellement dû à l'homme, bah, c'est les géologues qui, eux, ont intérêt à ce qu'on continue à chercher du pétrole et du charbon, parce que c'est de ça qu'ils tirent leurs moyens. Donc, vous voyez que dans ces contrôles.
Quel raccourci.
Bah, non, mais écoutez, c'est pas compliqué, hein. Les climato-sceptiques, c'est quasiment tous des géologues. J'y peux rien, moi. C'est pas moi qui l'ai inventé,
hein. Non, mais c'est peut-être un hasard. Et c'est peut-être pas hasard. Forcément téléguidé. Alors,
nous,
en
science, on sait faire des tests statistiques qui montrent si jamais ça peut être un hasard ou pas. Et là, non.
C'est vrai. Ce que vous dites est vrai en France. Je sais pas si c'est exactement le cas à l'étranger également. On connaît moins les climato-sceptiques en Angleterre ou aux États-Unis ou en Allemagne ou qu'en France.
Moi aussi.
Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a un échantillon très réduit, vous en conviendrez, pour faire une généralisation sur la nature des climato-sceptiques.
Très réduit.
C'est-à-dire deux personnes.
Ça. Oh non. Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres.
Des noms. Mais aux États-Unis, ils sont portés par des grands lobbies pétroliers et charbonniers, sans aucun doute.